الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فهذا لقاؤنا الثاني مع إخواننا في مدينة بوردو والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوب قلوب أهلها على طاعته وأن يوفقهم لأسباب مرضاته ولا شك ولا ريب أن أعظم هذه الأسباب المؤدية إلى تحقيق رضوانه جل وعلا هي هذه المجالس التي نحرص عليها ونجتهد لأجل حضورها والمحافظة عليها دائما وأبدا لأن العبرة في الأعمال إنما هو بالخواتيم قال من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا بدأ عملا داوم عليه عملا من الأعمال الصالحة قرب من القربات لا يتركه بعد ذلك أبدا أن هذه الأعمال فالعبد يتقرب بها إلى الله وتقربه إلى ربه دائم ومتواصل لا ينقطع ولا ينقضي لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك بقوله لنبيه عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين هو الممات يعني تبقى مداوم على هذه العبادة حتى تلقاه جل وعلا وخاصة أن هذه العبادة كلما زاد منها المسلم كلما زاده ربه عز وجل كلما زاده من الخير كلما زاده رفعة ومنزلة لأن هذا العمل به بعد تقوى الله تبارك وتعالى يرفع العبد عند ربه عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص فيه، وأن يوفقنا أن نسير فيه على المنهج القويم، على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم، منهج سلف هذه الأمة الكرام رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. لقاؤنا في هذا اليوم كما اختاره إخوانكم متعلق بفوائد نستفيدها وتعليقات نتفاكر فيها من حديث من أحاديث المصطفى العظيمة القدر، حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المعروف عند علماء هذا الشأن بحديث العرباض نسبة إلى هذا الراوي الصحابي الجليل العرباض ابن سارية السلمي الذي هو أحد نقباء أهل الصفة، أحد نقباء أهل الصفة. الحديث جليل القدر لأن موضوعه وصايا جامعة من خلال موعظة بليغة وعظ بها سيد الوعاظ ومعلم الناس الخير الأول نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث رواه الإمامان أبو داود والترمذي بسند صحيح، قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وفي رواية: موعظة بليغة، موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وفي رواية: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث الذي أسلفت رواه هذا الصحابي أبو نجيح العرباض بن سارية الذي كان أحد نقباء أهل الصفة، وأهل الصفة هم جماعة من أصحاب رسول الله قدموا إليه من قبائل متفرقة، هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بداية هجرة الصحابة. الإسلام لم ينتشر بعد، والإسلام ما زال في مهده الأول في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة لم تبدأ إلا بعد هجرة النبي إلى المدينة. أصبح لي الإسلام موطن يأوي إليه المسلمون على قلتهم، على قلتهم، إلا أنهم أمروا بذلك. أول من هاجر كبار أصحاب رسول الله السابقون الأولون من أهل مكة، ثم لما هاجر النبي واستقر به الأمر في طيبة الطيبة التي أصبحت تنسب إليه وتعرف بالمدينة النبوية، أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين جميعا أن يهاجروا إليه أو أن يهاجروا إليها. نعم عبد الرحمن، أنا أنسى أحيانا.
ما أردتم أن نقاطع؟ ما أردتم أن نقاطع؟
لا معلش قاطعنا ولا تقطعني.
الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، notre rencontre aujourd'hui avec nos chers frères dans la ville de Bordeaux. Et nous demandons à Allah d'unir nos cœurs sur son obéissance et son agrément. Et sans aucun doute, parmi les meilleures causes ou la meilleure cause afin d'obtenir l'agrément d'Allah est ce genre d'assises, des assises de rappel, de science. Il nous faut donc redoubler d'efforts afin de pouvoir y assister et avoir la constance dans cette action. Car certes, ce qui prévaut en matière d'action, c'est ce sur quoi nous mourrons. Aussi, cela faisait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la tradition prophétique. Lorsqu'il faisait une action, il ne l'arrêtait pas. Il était constant dans celle-ci. Ceci car, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à son messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui dit, selon la traduction approchée, « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne ». Et l'explication de la certitude dans ce verset est la mort. Et plus tu adores Allah, plus il t'ajoute en bien, plus il t'élève en degré. Aussi, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la réussite et qu'il nous permette de rester sur la bonne voie, la voie des compagnons, et la voix de ceux qui les ont suivis avec excellence après les pieux prédécesseurs. Notre rencontre aujourd'hui avec nos chers frères est, ou bien a pour sujet, le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, qui est connu auprès des savants du hadith comme le hadith de Al-Irbad. Al-Irbad, radiyallahu anhu, se nomme Al-Irbad ibn Sariya al-Sulami. Et il faisait partie de Ahl al-Sufa, les pauvres, parmi ceux qui avaient fait l'égir à Al-Madina. Ce hadith a une place toute particulière et une grande place parmi les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela car il renferme de nobles recommandations à travers une exhortation faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus éloquent des hommes, celui qui a enseigné aux gens le bien, il est à la tête de cela. Ce noble compagnon, radiallahu anhu, nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés par un rappel qui fit frémir nos cœurs et couler nos larmes. Nous dîmes, ou couler nos yeux, nous dîmes, Zala, ô messager d'Allah, c'est comme s'il s'agissait d'une exhortation d'adieu. Fais-nous donc des recommandations. Il dit: je vous recommande la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance, c'est-à-dire au gouverneur, quand bien même vous seriez dirigé par un esclave. Dans une autre version du hadith, un esclave Habashi, d'Abyssinie. Car certes, celui qui parmi vous vivra assistera à de nombreuses divergences. Et dans une autre version, qui vivra après moi. Tenez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes, droit et bien guidé. Mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux nouveautés, car certes, toute innovation est égarement. Ce hadith est rapporté par les deux imams Abu Daoud rahimahullah et l'imam Tirmidhi, et c'est un hadith authentique. Ce hadith est donc rapporté, comme nous l'avons cité, par ce noble compagnon Abu Najih al-Irbad ibn Sariya, et il fait partie des gens de Ahl Sufa, des pauvres qui avaient fait l'Égypte. Cela car au début, ceux qui ont émigré vers Al-Madinah, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tout premiers parmi les compagnons et les mères d'entre les habitants de Mecca al-Muhajiroun. Avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait peu de personnes. Ça n'est qu'après l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a ordonné aux musulmans de se diriger vers la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y accomplir l'égir. Et cette ville est donc devenue le lieu de rencontre des musulmans.
إذن قلنا راوي الحديث العرباض كان من أهل الصفة هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قادما من قبيلته بني سليم وكما قال عتبة بن عبد أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم ونحن سبعة أكبرنا العرباض فبايعناه يعني أميرا في الصفر رضي الله تعالى عنهم أجمعين فكان هؤلاء إذا جاءوا المدينة وليس عندهم فيها بيتا ولا قرابة ينزلون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم مكان فيه يجلسون في المسجد يسمعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل المدينة يكرمونهم وهم أهل كرم يعني الذي كان عنده شيء يأتي به ويضعه عندهم في المسجد وكانوا قرابة السبعين أهل الصفة وكانوا قرابة السبعين ولا علاقة لهؤلاء الصحابة بما عرف بعد ذلك بالصوفية أو المتصوفة الصوفية الذين اختلفوا حتى في معرفة أصل تسميتهم لما أطلق عليهم هذا الاسم أقوال منها أنهم نسبة إلى أهل الصفة وهذا لا يصح أبدا. أهل الصفة سموا بذلك لأجل ذلك المكان في المسجد النبوي ولأجل الحالة التي كانوا عليها. ثم العرباض رضي الله تعالى عنه كان ممن استوطن حمص بالشام بعد وفاة رسول الله، لأن الصحابة خرجوا في الفتوحات، وكان الكثير منهم قد خرج من مدينة رسول الله، وهي أحب البلاد إلى قلوبهم، ولكنه واجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والخروج في سبيل الله، الخروج في سبيل الله على الطريقة النبوية طبعا. ولهذا من آثار ذلك أن الكثير منهم سكن تلك الأقاليم وتلك البلاد حتى ربما مات فيها. تجدون قبور الصحابة في بلاد المغرب، تجدون قبور الصحابة في بلاد مصر، تجدون قبور الصحابة في بلاد الشام وما أكثرها، تجدون قبور الصحابة في بلاد العراق، في بلاد تركيا، أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم عنه، وهكذا. العرباض استوطن حمصة ومات فيه سنة 75 لهجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما عن الحديث الذي رواه وأفاد الأمة بهذه الرواية، قال رضي الله تعالى عنه: وعظنا.
Donc l'Irbad radiallahu anhu est arrivé avec un groupe parmi les compagnons de la tribu de Sulayh. Comme l'a dit Uqba radiallahu anhu, nous sommes rendus auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Utba.
Comme l'a dit Utba, nous nous sommes rendus auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous habitants de la tribu de Bani Sulayh, alors que nous étions 7. Et le plus grand d'entre nous était Al-Irbad. Et c'était notre amir durant ce voyage. C'était notre amir, nous lui avons prêté allégeance, le shiradis, c'est-à-dire le responsable durant le voyage. Et lorsque les voyageurs et les étrangers se rendaient dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils n'avaient ni endroit où loger, ni proche, ils habitaient alors à la mosquée. Et c'est ce qu'on appelle Ahl al-Suffa. Et les gens de Medina, lorsqu'ils avaient et possédaient des choses, ils leur apportaient à la mosquée. Quant à leur nombre, ils étaient environ 70, ou près de 70 personnes. Ils ont donc été connus sous cette appellation Ahl al-Suffa. Et sachez qu'il n'y a aucun lien entre eux et entre les adeptes du soufisme. Les soufis eux-mêmes ont divergé quant à leur appellation. Certains ont dit que c'était en référence à Ahl al-Suffa, mais cela n'est aucunement authentique. Ahl al-Suffa ont été appelés ainsi car ils restaient dans cet endroit, à la mosquée, et ils ont été appelés ainsi suite à leur situation. Al-Irbad ibn Sariyah fait partie de ceux qui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont rendus Fisham dans la ville de Hims et l'y est décédé. Et ceci nous montre l'action des compagnons, c'est-à-dire qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup sont sortis de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur était très cher, mais ils ont fait cela pour remplir leur obligation qui est la prédication et la propagation de l'islam et le fait de sortir dans le sentier d'Allah. Et ce que j'entends par sortir dans le sentier d'Allah, à la manière légiférée, bien évidemment. Et parmi les effets de cela, c'est-à-dire le fait qu'ils aient quitté Al-Madinah, c'est qu'on trouve que beaucoup d'entre eux ont habité dans certains pays, comme l'Égypte, comme l'Irak, comme la Turquie et autres, et qu'ils y sont décédés. Et qu'ils y sont décédés, tout comme Abu Ayyub Al-Ansari est décédé en Turquie.
J'ai dit c'était le Maghreb.
Al-Maghrib en premier. Le Maroc en premier.
Non, c'est pas le Maroc, le Maghreb.
Al-Maghrib.
Al-Maghrib.
Yani Al-Maghrib. Ensuite, le Shir a cité Bittartib, Misr, l'Égypte. Ensuite, Al-Sham. Et ô combien ils sont nombreux. Il a cité également l'Irak, l'Irak, la Turquie, où il est décédé. Abu Ayyub Al-Ansari, il est décédé. Al-Irbad ibn Sariya, radiallahu anhu, en l'an 75. En l'an 75 plutôt. Na'am. En l'an 75 à Hims.
قال إذا رضي الله تعالى عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وعظنا من الوعظ والوعظ معناه في اللغة والشرع التذكير التذكير بالترغيب والترهيب التذكير بما يرقق القلوب ويلينها حتى تقبل على الله تبارك وتعالى والموعظة أمرنا ربنا تبارك وتعالى بها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يأمرنا ربنا جل وعلا أن ندعو إليه إلى دينه إلى سبيله بالحكمة الحكمة الشرعية الحكمة النبوية كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ربه والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه اللائق به هذه الحكمة ليست الحكمة بمعنى اللين وليست الحكمة بمعنى الشدة والغلظة أحيانا يكون من الحكمة استعمال الشدة يكون من الحكمة استعمال الشدة في موضعها الخاص بها والذي يكون له أثره وأحيانا الحكمة تكون باللين تكون باللين وهذا في الحقيقة هو الغالب فيها ليس هذا فحسب ليس هذا فحسب الحكمة كذلك تكون منوطة بالعلم أصحابها لهم علم معرفة بالأحكام الشرعية لأن وضع الشيء في محله أو في موضعه اللائق به هذا لا يتأتى إلا لمن كان عالما بذلك الجاهل قد يظن السنة بدعة وقد يعتقد في البدعة أنها سنة ولهذا عوض أن يدعو إلى سنة يدعو إلى بدعة يدري أو لا يدري هذا لا يهم يدعو إلى بدعة وما أكثر الدعاة إلى البدع في هذا الزمان الدعاة إلى الضلالة دعاة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها الذي يطيعهم هؤلاء الدعاة يقذف في النار عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا لا ينبغي على المسلم أن يكون مستجيبا لكل دعوة، وخاصة في الزمن الذي تكثر فيه الدعوات ويكثر فيه الأدعية. لا بد أن تكون استجابته لدعاة الحق، للدعاة الذين يكونون على هداية. ولهذا جاء في آخر هذا الحديث بيان هذا والإشارة إليه في وصف الخلفاء الذين أمرنا باتباعهم والسير على هديهم، خلفاء الراشدين المهديين. شرط الاتباع الرشاد والهداية.
الشيخ حفظه الله تعالى commence avec toujours du hadith en disant comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi en disant comme l'a dit l'Irbad ibn Sariya radiallahu anhu, selon la traduction, le messager d'Allah wa'adhana, nous a exhorté. Ça vient du mot al-wa'ad, l'exhortation. Quant à son sens linguistique et religieux, c'est le rappel. L'exhortation, c'est un rappel dans lequel on développe notre espoir et on développe notre crainte. C'est un rappel de par ce qui amène la douceur du cœur. C'est un rappel vers ce qui nous amène à répondre à l'appel d'Allah ou à se diriger vers Allah. Donc, voici le sens de l'exhortation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné l'exhortation dans le Coran en disant, selon la traduction, appelle au Seigneur, invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et la bonne exhortation, et discute ou bien débat avec eux selon ce qu'il y a de meilleur. Donc on doit appeler à Allah avec sagesse. La sagesse qui est la religion ou bien la législation du prophète, on doit le suivre dans cela. Appeler à Allah comme le faisait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au sens du mot hikma, la sagesse, c'est le fait de mettre la chose dans l'endroit qui lui est adéquat, qui lui convient. Et ne fait pas partie, ou bien on ne définit pas la sagesse comme étant la douceur ou comme étant la sévérité, la dureté. Mais la sagesse peut être par moment d'utiliser la sévérité ou bien la dureté, car c'est ce qui apporte les bons fruits. Et à d'autres moments, utiliser la douceur. Et sachez que c'est la base, ou bien sachez que c'est la plupart du temps ce qu'il convient de faire, d'utiliser à la douceur. Également, ajoutez à cela que la sagesse est rattachée à la science. Les gens de la sagesse sont des gens de science, car comment pourrais-tu faire ce qu'il faut ou bien mettre la chose qu'il convient dans l'endroit qui lui convient alors que tu es ignorant? L'ignorant peut tomber dans les fautes volontairement ou involontairement. Il peut appeler à une voie pensant que c'est la sunna alors qu'il appelle à l'innovation, à la bid'a, comme ceux qui appellent aux portes de l'égarement, et ô combien sont-ils nombreux de nos jours. Ils appellent, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux portes de l'enfer. Et quant à ceux qui leur obéissent, ils tomberont dans le feu. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela qu'il ne convient pas aux musulmans de répondre à toute invitation, à tout prêche et à tout prédicateur. Mais tu dois suivre les prêcheurs de la vérité. Tu dois suivre les prêcheurs guidés. Voici la condition pour suivre la personne, comme on voit à la fin de ce hadith la description des califs bien guidés. Mahdiyyin.
وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في وعظه أو في مواعظه أنه يتخولهم بها كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي كان يعظ أصحابه على هدي رسول الله. والصحابة كانوا يستحسنون مواعظة ويتلذذون بها، فسألوه أن يزيدهم، يعني أن يكثر من وعظهم. كان ربما يعظهم مرة في الأسبوع، فطلبوا منه أن يجعلها مواعظ يومية، أن يعظهم كل يوم. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تجدونها كثيرا في أحاديثه، مخافة كذا وكذا. يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الصحابة في صلاة العشاء تأخرا شديدا، حتى من الصحابة من نام في المسجد، ومن الصحابة من صلى وانصرف إلى بيته ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج، ثم خرج وفعل هذا قصدا حتى يعلم الصحابة، وهذا من التعليم العملي الذي كان ينتهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فعلمهم أن هذه الصلاة أفضل أوقاتها هو هذا الوقت، الصلوات كلها أفضل أوقاتها في أول وقتها، أفضل أوقاتها أوله، إلا في صلاة العتمة أو صلاة العشاء، فإن أفضل وقتها في آخره، أو صلاة الظهر في البلاد الحار الحر الشديد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرد بها وأمر بالإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحر، قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا من التخفيف على الأمة، والإسلام كله بني على أصل التخفيف والتيسير، حتى كان التيسير سمة من سمات التشريع الإسلامي، سمة من سمات التشريع الإسلامي، يعني التخفيف. ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي شيء فيه حرج وفيه مشقة لا يشرع لنا. فصلاة الظهر نؤخرها عند شدة الحر، وهذا التأخير هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الإبراد، حتى يبرد الجو، حتى يبرد الجو. وباقي الصلوات الأفضل في أول وقتها. أخر العشاء ليبين لهم أنه أفضل الأوقات، إلا أنه قال لهم: لولا أني أشق عليكم، يعني مخافة أني أشق عليكم، لا كان هذا وقتها، يعني لصلى بهم دائما في أفضل الوقت، ترك الأفضل مخافة المشقة. ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح وقد صلاها جماعة بأصحابه 4 ليالي، ثم بعد ذلك تركها، علل هذا بمخافة أن تفرض عليكم، يعني مخافة أن يأتي جيل بعد جيل يظن أنها فريضة، لأجل هذا حتى لا يقع هذا تركها النبي عليه الصلاة والسلام لتبقى نافلة على التخيير مستحبة، من فعلها يؤجر ومن تركها لا شيء عليه. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام الدائم، دائما وأبدا يحرص على تحقيق هذا الأمر، الإشفاق على أمته. لأجل هذا في باب الموعظة ترك النبي عليه الصلاة والسلام أن يعظهم ديما، يعني دائما. علل هذا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: مخافة السآمة علينا، يعني حتى لا نسأم من هذا الأمر، وإذا سئم الناس منه تركوه، وإذا تركوه فاتهم خير كثير، لأننا نحن نحتاج إلى الموعظة، نحتاج إلى الوعظ بين الفينة والأخرى. نعم.
Puis le Cheikh Hafidahullah Ta'ala nous enseigne que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'exhortation est comme nous l'a enseigné Abdullah ibn Saoud et comme il s'est comporté lui-même avec ses compagnons, c'est qu'il faisait des exhortations en les espaçant. Et les compagnons, lorsqu'ils entendaient l'exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils tiraient énormément de plaisir. Alors ils lui ont demandé d'augmenter la fréquence de ses exhortations. Ils ont demandé, donc les compagnons de Abdullah ibn Saoud lui ont demandé d'augmenter la fréquence de ses exhortations. Abdullah ibn Saoud leur a enseigné la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leur disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam espaçait ses exhortations, afin qu'on ne se lasse pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent dans ses textes, on trouve qu'il a fait une chose ou délaissé une chose, et on trouve à la fin du texte « de peur que ceci ou cela ». De peur que n'advienne ceci ou cela. Le Cheikh nous cite plusieurs exemples. Parmi ces exemples, c'est qu'un soir, il est sorti très tard pour effectuer la prière du Isha en groupe, au point où certains parmi les compagnons sont entrés chez eux. Ils ont prié, sont rentrés chez eux. D'autres se sont endormis. Et il a cité d'autres cas. Alors que la base, pour l'ensemble des prières, c'est que le meilleur est de l'effectuer au début de son temps. Sauf pour la prière du Isha. Et le Cheikh a cité une autre exception, c'est la prière du Dhuhr dans un endroit où il fait très chaud. Dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de le retarder un peu afin que le temps se rafraîchisse. Mais sinon, la base, c'est de prier la prière au début du temps. Voici ceux qui apportent le plus, ou bien voici la meilleure chose à faire. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé la prière du Isha? Car c'est le meilleur temps. Mais il l'a fait une fois, puis il a dit: n'eût-ce été par crainte que cela ne soit trop difficile pour vous, voici le temps qu'on aurait choisi. C'est-à-dire qu'on aurait fait la prière tardivement. On aurait retardé le temps du Isha. Mais telle était la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la douceur et la compassion envers sa communauté. Et il faisait tout pour concrétiser cette grande base, la douceur et la compassion envers sa communauté. Et c'est pour cela qu'il espaçait ses exhortations, afin que ses compagnons ne se lassent pas, comme l'a stipulé clairement Abdullah ibn Saoud. Car si l'exhortation est faite sans cesse, sans les espacer, elles sont faites, alors les gens vont se lasser. Et s'ils se lassent, ils vont délaisser ces exhortations, alors qu'elles renferment énormément de bien.
هذه الموعظة التي جاء وصفها بقوله رضي الله تعالى عنه في الرواية الأخرى: موعظة بليغة، بليغة في معانيها وفي ألفاظها، هذه البلاغة التي من آثارها وحسن نتائجها أنها تؤثر في القلوب تأثيرا شديدا، لأن الموعظة في حقيقة أمرها موجهة للقلوب، فإذا تأثرت هذه القلوب بمثل هذه الموعظة ظهرت على الجوارح الأخرى، ظهرت على العينين، ظهرت على الجلود، كما جاء ذكر هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الموعظة من بلاغتها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوها قال رضي الله تعالى عنه: وجلت منها القلوب. الوجل هو الخوف، الوجل هو الخوف، كما قال الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهؤلاء المؤمنون الصادقون الخاشعون إذا ذكروا الله أو سمعوا ذكر الله تبارك وتعالى أحسوا بهذا الخوف، الخوف من الله تبارك وتعالى في قلوبهم، لأن هذا الذكر فيه من الآيات والنصوص القوية جدا، القوية جدا. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في جلوسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثرون بمواعظه، حتى أنه إذا حدثهم عن النار أقبلوا إليه، أقبلوا إليه رغبة في هذه الدار، كأنهم يفعلون هذا لا إراديا. وإذا حدثهم عن النار تراجعوا مخافة منها، خوفا من الله تبارك وتعالى. نعم الجنة، لا عن الجنة، إذا حدثهم عن الجنة أقبلوا إليه. أحسن، ما شاء الله توامشي تمسي الله الله. هذا إذن أثر هذه المواعظ الطيبة المباركة، كيف لا، وهي موعظة سيد الواعظين على الإطلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي القرآن أنزل على قلبه، الذي القرآن أنزل على قلبه، والسنة هو صاحبها. لا شك أن مواعظه تكون بهذه الدرجة صلى الله عليه وسلم. قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ذرفت منها العيون، أي بكى الصحابة لما سمعوا موعظته خشوعا وخوفا من الله تبارك وتعالى. قد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا وصفه، شديد البكاء، لأنه شديد الخوف من الله عز وجل. وعلى رأس هؤلاء بعد رسول الله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه ما استطاع حتى أن يخرج للناس ليصلي بهم، قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك نفسه إذا قام في الصلاة من شدة بكائه، يعني لو اخترت غيره. وهي تدري ما تقول رضي الله تعالى عنها. قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع القرآن وهو الذي أنزل عليه تذرف عيناه الطاهرتان، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل القرآن، هذا أنزل عليك كيف أقرأه عليك؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه فبدأت أقرأ عليه من سورة المائدة حتى أتيت، فكيف إذا جئنا فكيف من سورة النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عبد الله فقال لي حسبك الآن، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، أي نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المقصود في هذه الآية الكريمة، ولأنه أحس بعظم الأمانة وضخامة المسؤولية فبكى لأجل ذلك خشوعا وتأثرا وخوفا من الله تبارك وتعالى. نعم.
Cette exhortation a été qualifiée dans certaines versions du hadith de très éloquente. Éloquente dans ses mots utilisés, éloquente dans ses sens renfermés. Et parmi les effets de cette exhortation éloquente, le fait qu'elle fasse bouger et frissonner les cœurs de crainte d'Allah. Et en réalité, ce qui est visé par l'exhortation est le cœur, mais ses effets se répercutent sur le corps, sur la peau, sur les yeux. Les yeux coulent ou les larmes coulent, la peau frémit, comme cela nous a été cité dans le Coran. Et parmi les effets de cette exhortation sur les compagnons, c'est que leur cœur bougeait et frissonnait, c'est-à-dire par crainte d'Allah. Et c'est ainsi qu'on t'est décrit les personnes pieuses dans le Coran, ceux qui, lorsqu'on leur récite les versets d'Allah, leur cœur bouge. Le Cheikh a expliqué en disant par crainte d'Allah, par humilité. Lorsqu'ils entendent le rappel, ils ont peur d'Allah. Ceci car ce qu'ils entendent, c'est des versets, c'est des textes religieux qu'ils affectent énormément, très forts et éloquents. Les compagnons étaient tellement affectés par cette éloquence que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parlait du paradis, sans même s'en rendre compte, ils avançaient vers lui. À l'inverse, lorsqu'il leur parlait de l'enfer, peut-être même sans s'en rendre compte, ils reculaient. Comment cela pourrait-il être autrement, alors que celui qui leur parle est le plus éloquent, celui sur lequel a été révélé le Coran, la parole d'Allah, celui qui avait avec cela la sunna, et c'est l'homme de la sunna, la tradition prophétique. Donc sans aucun doute, ces exhortations avaient ce noble rang. Puis on nous cite dans le hadith, nos yeux ont coulé. C'est-à-dire que les compagnons ont pleuré. Lorsqu'ils ont entendu l'exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été touchés et ont eu peur d'Allah. Les compagnons, beaucoup parmi eux, étaient connus pour cette caractéristique. Ils pleuraient souvent par crainte d'Allah à leur tête. Et le meilleur d'entre eux, après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Lors de la maladie de mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement malade qu'il n'a pu sortir pour effectuer la prière en commun à la mosquée. Il a donc dit à Aïcha radiallahu anha, ordonné à Abu Bakr de présider la prière, de faire l'imam. Aïcha radiallahu anha a dit, ô messager d'Allah, Abu Bakr est une personne très sensible. Lorsqu'il se tient pour faire l'imam et récite, il pleure tellement qu'on n'entend pas sa récitation.
ordonne plutôt à quelqu'un d'autre de présider la prière. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté et réitéré sa demande, ordonné à Abu Bakr de présider la prière. Et c'est ainsi qu'était notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était touché par la lecture du Coran et lorsqu'il l'entendait, il pleurait également. Un jour, il a dit à Abdullah ibn Mas'ud, récite le Coran. Récite-moi, fais-moi entendre le Coran. Abdullah ibn Mas'ud lui a répondu, comment pourrais-je réciter sur toi, messager d'Allah, le Coran sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est sur toi qu'il a été révélé. Il lui a dit, j'aime l'entendre d'autrui. Alors Abdullah ibn Mas'ud a commencé à réciter dans Surat An-Nisa, jusqu'à arriver au passage où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc selon la traduction, et dans quel état seras-tu lorsque nous amènerons un témoin à comparaître pour chaque communauté et que tu seras amené toi à comparaître en tant que témoin. À ce moment-là, il m'a dit, cela suffit. Je me suis tourné vers lui et j'ai vu que ses larmes coulaient. Pourquoi est-ce que ses larmes coulaient? Car il était touché par cette récitation et il se rendait compte de l'énorme responsabilité qui pesait sur lui également par peur et crainte.
قال بعد ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد وصفه هذا الوصف البليغ لموعظة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن أثرها في هؤلاء الصحابة الكرام وقلنا أن هذه الموعظة كيف لا تكون كذلك وهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول كذلك وأثرها كيف يكون كيف لا يكون كذلك ومن سمعها هم أصحاب رسول الله وهم خير هذه الأمة بعده رضي الله تعالى عنهم خير هذه الأمة علما وعملا وإيمانا واستجابة وفيهم يصدق قول الله جل وعلا بالدرجة الأولى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهم خير الناس بعد رسول الله مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلما كان هذا تأثير هذه الموعظة البليغة قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع وهذا كذلك دليل آخر وقرينة أخرى تدل على شدة بلاغة هذه الموعظة إلى درجة أن الصحابة وصفوها بهذا الوصف يعني قالوا يا رسول الله كأنك ستودعنا وهذه آخر وصية لك وأنت تودعه وننظر في هذا تصور إنسان على وشك الهلاك يودع من حوله يودع أحبابه ويودع أولاده ويودع أزواجه وقرابته كيف تكون تلك الكلمات وكيف تخرج تلك الكلمات لا شك أنه يكون متأثرا أثرا بليغا وإذا خرجت تلك الكلمات تخرج من قلبه ويكون صادقا فيها لأنه خلاص وقت التلبيس والتدليس والغش قد ولى هذا بالنسبة لعموم الناس نبينا عليه الصلاة والسلام منزه عن مثل هذا كله بأبي هو وأمي قالوا كأنها موعظة مودع طيب ما دام أنها بهذا الحال وعلى هذا الوصف ماذا قال الصحابة؟ والصحابة لا يضيعون فرصة من فرص الخير البتة، يعني هم أشد الناس صيدا وقنصا للفرص الثمينة. كما احنا الله يبارك علينا في قنص الفرص الدنيوية مرات وحتى فرصة، صح ولا لا؟ فرصة كما تقولون انتم تاع لي زافير، ولا واحد يضيع هذه الفرصة. إذا كان دي بروموسيون في كلك بازار اون سرا لي برومي، صح ولا لا؟ إذا كان شركة من شركات السيارات ولا غيرها دارت ليكيداسيون نكونوا حنا أول الزبائن، صح ولا لا؟ هذا من كياستنا وشطارتنا في أمور دنيانا. هذا المثل يصدق على الصحابة في أمور آخرتهم، أي فرصة من فرص الخير الأخروي لا يضيعونها أبدا حتى في مثل هذه الفرصة. موعظة ظنوا فيها أنها كأنها موعظة مودع يودع الناس، فقالوا يا رسول الله أوصنا، يعني يسألونه الوصية لهم بما يوصيهم وكأنه سيودعهم. نعم.
Après cela, cette description faite par les compagnons de l'exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa perfection et son éloquence, et après nous avoir cité l'effet de cette exhortation sur les nobles compagnons, et tout comme nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence son exhortation pourrait ne pas être de cette qualité, alors que c'est le messager d'Allah le plus éloquent, celui sur qui a été révélé le Coran et d'autres choses, ben nous disons la même chose pour les compagnons. Comment est-ce qu'ils pourraient ne pas être autant affectés alors qu'ils sont les meilleurs des hommes après les prophètes et messagers, alors qu'ils sont les plus pieux, les gens ayant la meilleure foi et dans d'autres qualités, ils sont les meilleurs après les prophètes alayhim salatu wassalam. Ils sont comme Allah nous l'a décrit, et ils entrent dans ce verset en premier lieu. Donc selon la traduction, vous êtes la meilleure communauté issue d'entre les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable, et vous avez foi en Allah. Et conformément avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il nous dit, les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui viendront après eux, puis ceux qui viendront après eux. Donc ce sont les compagnons les meilleurs des hommes. Ils ont dit, devant l'éloquence de cette exhortation au messager d'Allah, ceci ressemble à un serment d'adieu, à une exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Et ici il y a à nouveau une preuve et un indice qui nous montre la perfection de cette exhortation. Car ils l'ont qualifié de serment d'adieu. Imaginez une personne qui est sur le point de mourir. Il y a autour de lui ses bien-aimés, il y a autour de lui ses enfants, ses épouses, ses proches. Qu'est-ce qu'il va choisir comme paroles? Les meilleures et les plus éloquentes. Et quel effet aura ces paroles sur ces gens-là? C'est un moment où il n'y a pas de tromperie ni de trahison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, était exempté de cela de tout temps. Lorsque les compagnons ont eu connaissance de cet état et ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler ainsi, comme une personne qui faisait ses adieux, ils ont saisi l'occasion. Et ils lui ont demandé des recommandations. Et de cela, on comprend que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissaient pas passer la moindre occasion de tirer profit des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur permettait d'avoir une bonne place dans l'au-delà. Et c'est exactement ce que nous faisons, nous, pour les choses mondaines. Si l'un d'entre nous entend qu'il y a une liquidation dans un commerce, il s'empresse et il ne perd pas cette occasion de commercer, que ce soit dans un commerce où il vend des voitures ou autre. Ben, c'est ainsi qu'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les actions qui rapprochent d'Allah dans l'au-delà. Ils ont donc dit, ô messager d'Allah, fais-nous des recommandations.
فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل الوصية والوصية ما يعهد به الرجل لغيره والغالب أن تكون الوصية من الكبير سواء كبير السن أو كبير القدر أو كبير العلم إلى من دونه الوصية أعظم الوصايا وصايا الله تبارك وتعالى لعباده والله عز وجل يوصي عباده وهذه الوصية التي بدأها النبي عليه الصلاة والسلام بالوصية بتقوى الله هي من وصايا الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا في كتابه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أوصى الجميع بتقوى الله تبارك وتعالى وهي وصيته للأولين والآخرين ومن أعظم وهي كذلك وصية جميع الأنبياء والمرسلين وهي وصية سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام دائما أول ما يبدأ وصاياه لأصحابه والأمة من بعدهم أوصيكم بتقوى الله والتقوى من الوقاية والمقصود بها الوقاية من عقاب الله جل وعلا بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر الوقاية من ماذا؟ الوقاية من عقابه وهذا لابد ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات من مثل قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد التقوى مناسب في هذا المقام اتق الله جل وعلا بفعل ما أمرك وترك ما نهاك عنه حتى تكون يوم القيامة من الناجين ولتنظر نفس ما قدمت لغد الغد هو يوم القيامة ونحن ما خلقنا لهذه الدنيا الدنيا هذه ليست لنا ولسنا لها نحن خلقنا للآخرة نحن خلقنا للآخرة ولهذا كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يرغبنا في الآخرة ويزهدنا في الدنيا من أقواله العظيمة البليغة في هذا الباب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن ليس معنى هذا أن المؤمن معاقب معذب في هذه الحياة يعني مهما أوتي من نعيم الجنة من نعيم الدنيا فإنه لا يساوي شيء أمام الآخرة ولهذا أحد اليهود مرة رأى موكب القاضي وكان في أيامه قاضي القضاة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قاضي القضاة، قاضي القضاة بمعنى يعادل عندنا اليوم ما يعرف بوزير العدل، مينيستر لا جوستيس، مينيستر دو لا جوستيس، لا جوستيس ولم يحزن، هذا معنى قاضي القضاة. فمر بموكبه ورآه هذا اليهودي، فاستوقف هذا الموكب ليسأل الحافظ. قال له: يا سيادة القاضي، نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا أعيش في هذه الدنيا تعيس حقير فقير، وأنا يهودي واليهودي عندكم كافر، وأنت مسلم تعيش في هذا النعيم وهذا الخير العظيم. فما كان من الحافظ المسدد، وهكذا العلماء، قالوا: كل هذا الذي تراه وتعظمه ويعظمه أمثالك، أمثالك من الذين عظموا الدنيا بقلوبهم، هذا كله لا يساوي عند الله تبارك وتعالى شيئا، وأمام نعيم الجنة، أي أمام ما ينتظر المؤمنين عند ربهم، هو كالسجن أو دونه، هو كالسجن أو دونه. ولهذا جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يأتي بأنعم رجل من أهل الدنيا، أنعم رجل من أهل الدنيا كان يعيش فيها، من الكافرين، من الكافرين الذين استحقوا النار، فيغمس غمسة واحدة في جهنم ثم يخرج، ثم يخرج منها، فيسأله الله تبارك وتعالى: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ قد يكون عاش 20 70 80 سنة 100 سنة وهو في النعيم، يتقلب في النعيم. أحد الأثرياء من العائلات الثرية يقول: ولدت يوم ولدت وملعقة من ذهب في فمي، بدأوا شربوه قطرة ماء بملعقة من ذهب. ونحن نهينا عن، مع الأسف هذا مسلم، نهينا عن أواني الذهب، يعني هذه الملعقة تغنيك يوم القيامة، ذهبك الدنيا كلها ملكتها ذهبا، ذهب الدنيا كله ملكته، يغنيك أمام الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما يسأله ربه تبارك وتعالى، يكون جوابه: لا يا رب، ما رأيت نعيما قط وما مر بي نعيم قط. كل شيء يذهب بغمسة واحدة، بغمسة واحدة في عذاب الله تبارك وتعالى وعقابه. ولهذا وجب على المؤمن أن يجعل بينه وبين هذه النار الوقاية اللازمة التامة. بماذا؟ بفعل ما أمره الله واجتناب ما نهاه عنه.
Ils ont donc demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des recommandations. La recommandation, c'est ce que tu vas laisser aux autres ayant la plus grande importance. Et en général, la recommandation est faite du grand vers celui qui a un rang inférieur, que ce soit en âge, que ce soit dans la considération ou que ce soit dans la science.
Par exemple, la recommandation d'Allah à ses serviteurs, comme on trouve dans le Coran, la recommandation qui est le fait de craindre Allah, c'est la meilleure des recommandations. Allah nous dit, selon la traduction approchée, nous avons certes recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, la crainte d'Allah. Allah a donc ordonné à l'ensemble la piété et le fait de craindre Allah. C'est également, donc c'est la recommandation d'Allah aux premières et aux dernières générations, craindre Allah. Comment craindre Allah? En faisant ce qu'il nous a commandé et en délaissant ce qu'il nous a interdit. At-taqwa dans la langue arabe, c'est le fait de se prémunir d'une chose. Et dans la religion, taqwa Allah, c'est le fait de se prémunir de quoi? Se prémunir du châtiment d'Allah, du feu de l'enfer. Et comment cela se réalise? En faisant ce qu'Allah nous a ordonné. Et en délaissant ce qu'il nous a interdit. La crainte d'Allah est la recommandation faite par l'ensemble des prophètes et messagers à leur peuple. C'est la recommandation faite par le meilleur des messagers et des prophètes, l'élite des premiers et des derniers. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il faisait des recommandations, il commençait par la crainte d'Allah. Il nous faut donc faire ce qu'Allah nous a commandé et délaisser ce qu'il nous a interdit. Il nous faut craindre Allah. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction approchée, ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chacun me regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Donc on nous commande ici de craindre Allah afin d'être sauvé du feu le jour de la résurrection. Et demain, ce qui est voulu dans ce verset, par demain, el-rad, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Nous n'avons pas été créés pour ce bas monde. Cette dunya n'est pas pour nous et nous ne sommes pas pour elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués afin qu'on ait de l'ascétisme concernant cette dunya, qu'on s'en détourne. Et quant à l'au-delà, il nous a invités à nous diriger vers elle. Et parmi ses paroles les plus éloquentes dans ce thème, dans ce sujet, le fait qu'il ait dit sallallahu alayhi wa sallam, ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Il ne faut pas comprendre ici que le croyant dans ce bas monde est torturé ou châtié, non. Mais en comparaison à ce qu'Allah lui a préparé comme délice dans l'au-delà et comme récompense, c'est comme si dans ce bas monde, il était emprisonné. Ce bas monde n'a aucune valeur, il ne représente rien devant ce qu'Allah a préparé pour les croyants. Et parmi les histoires qui se sont passées, l'histoire avec Al-Hafidh ibn Hajar, qui était considéré à l'époque comme Qadi al-Qubat, ce qu'on pourrait appeler au jour d'aujourd'hui le ministre de la justice, ou bien le chef des juges. Il est passé avec une délégation, et il avait une situation assez aisée, près d'un juif. Et ce juif-là était pauvre. Ce juif l'a interpellé en lui disant, « Ô toi, le ministre de la justice, votre prophète dit que ce bas monde est la prison du croyant. Alors que je te vois posséder toutes sortes de choses et je te vois dans les bienfaits. » Et il dit également que ce bas monde est le paradis du mécréant. Et voici ma situation. Al-Hafidh ibn Hajar, Allah lui a accordé la réussite dans sa réponse comme il l'accorde aux gens de science, aux savants. Il lui a donc répondu, tout ce que tu vois comme bienfait sur moi et ce à quoi tu aspires et les gens comme toi, sache que cela ne représente rien devant ce qu'Allah a préparé pour les croyants au paradis. En comparaison, si on compare cela à ce qui attend au paradis, cet état-là est l'état d'un homme qui est emprisonné dans ce bas monde. Et le jour de la résurrection, la personne qui aura reçu le plus de bienfaits parmi les non-musulmans sera appelé à comparaître devant Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir la personne qui a eu le plus de bienfaits dans ce bas monde, mais qui n'était pas musulmane. On va la tremper un court instant en enfer. Puis elle en sortira et on lui dira, ô toi le serviteur, est-ce que tu as déjà été heureux dans ce bas monde? Est-ce que tu as déjà vu un bienfait? Alors que c'était une personne qui baignait dans les bienfaits d'Allah. Au point où l'un d'entre eux parmi les riches dit, depuis le jour où je suis né, on m'a mis une cuillère en or dans la bouche. Mais est-ce que cette cuillère en or lui sera utile pour le sauver le jour du jugement dernier? Et à nous les musulmans, il nous a été interdit d'utiliser des ustensiles en or. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il lui sera dit, est-ce que tu as déjà connu un plaisir? Est-ce que tu as déjà vu un bien? Il répondra, non, ô mon Seigneur, je n'ai jamais connu de bien, je n'ai jamais connu de plaisir. C'est un homme qui peut-être a vécu 100 ans dans les bienfaits d'Allah. Pourtant, un instant en enfer lui fera oublier tous ses bienfaits. Ce bas monde ne représente rien, mes frères, craignez Allah en faisant ce qu'il vous a commandé et en délaissant ce qu'il vous a interdit.
تقوى الله تبارك وتعالى كذلك يبدأ به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاياه لأنه حق الله عز وجل وحق الله تبارك وتعالى دائما هو المقدم على حق العباد أو على حق الغير في باب الحقوق ثم ثنى عليه الصلاة والسلام بعد الأمر والوصية بتقوى الله تبارك وتعالى بالأمر بالسمع والطاعة الأمر بالسمع والطاعة والسمع دائما يسبق الطاعة لمن أمرنا الله عز وجل بطاعته والمقصود بهم هنا ولاة الأمر ولاة أمر المسلمين وفي طاعتهم جمع لكلمة المسلمين في طاعتهم أولا طاعة لله عز وجل وقيام بما أمر الله وتحقيقا لمقتضى التقوى من مقتضيات تقوى الله عز وجل فعل المأمورات وترك المنهيات وهذا من المأمورات الله جل وعلا أمرنا به كما في الآية من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أمرنا بطاعة الله أولا وطاعة الله تبارك وتعالى هي الأولى وهي طاعة استقلالية يعني لا نحتاج مع طاعة الله عز وجل قيد أو شرط أن تطيعه في كل ما أمر فيما وافق هواك أو خالفه فيما تحب أو لا تحب فيما يحبه الناس أو فيما يكرهونه ولا يقدم على طاعة الله طاعة مخلوق كائنا من كان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا لا تقدم على طاعة ربك طاعة أحد من الخلق وأطيع الرسول وطاعة الرسول هنا طاعة استقلالية طاعته هي من طاعة الله أولا ثانيا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما يرضي الله أصل وفي هذا إشارة أن باب الأوامر في السنة أوسع منها في القرآن يعني قد يكون أمر لم يرد في الكتاب لم يرد في القرآن ولكن ورد في السنة ورد في السنة هل نقول لا نطيع الرسول إلا بما أمرنا به وكان موجودا في القرآن؟ أبدا، طاعتنا له طاعة استقلالية، لأن الله عز وجل قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلامه في التشريع وحي، وهو في هذا كالقرآن، يعني من حيث الاستدلال، من حيث الحجية والاستدلال هو كالقرآن. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أناس هم من شر الناس يأتون في آخر الزمان. وما أدراك ما آخر الزمان؟ تكثر الفتن. من هذه الفتن أنه سيظهر ناس في هذه الأمة يقولون: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم متكئ على أريكته، يعني ناس منعمين، يقول: ما وجدنا في القرآن أخذنا به، وما لم نجد لم نأخذ، يعني يردون السنة ولا يقبلون السنة. يسمون أنفسهم أو يسمونهم في هذا الزمان بالقرآنيين، والله ما هم قرآنيون، ما هم قرآنيون، لأن القرآن هو الذي يستجيب لأوامر ربه كلها. ومن أعظم هذه الأوامر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والله تبارك وتعالى امتحن الخلق امتحانا عظيما فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا هذا النبي حتى تتحصلوا على أو تفوزوا بمحبة الله تبارك وتعالى.
Donc la crainte d'Allah est la première des recommandations. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des recommandations, il commençait par la crainte d'Allah. Ceci car cela est relatif au droit d'Allah. Il passe donc avant le droit de l'ensemble de ses créatures. Puis deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'écouter et d'obéir. Et on voit qu'à chaque fois, l'écoute passe avant l'obéissance. Le croyant, il lui a été ordonné d'écouter et d'obéir. Et ce qui est voulu dans ce hadith, c'est d'écouter et d'obéir à ceux qui détiennent l'ordre parmi les croyants, c'est-à-dire les gouverneurs. Et en leur obéissant, il y a l'union de la parole des musulmans. Premièrement, lorsque tu écoutes et obéis au gouverneur, il y a dans cela l'obéissance d'Allah, car tu t'es soumis à l'ordre d'Allah et tu l'as mis en pratique. Et ceci entre dans la piété, dans la crainte d'Allah. Car la crainte d'Allah est, comme nous l'avons cité, faire ce qu'Allah nous a ordonné et délaisser ce qu'il nous a interdit. Et ici, on nous commande d'écouter et d'obéir au gouverneur. Dans Surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah ». Et obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. L'obéissance d'Allah en premier, c'est une obéissance qui n'est pas rattachée à une condition. C'est une obéissance qui est absolue. C'est une obéissance qui est absolue. C'est-à-dire, on ne dit pas on obéit à Allah dans ceci ou dans cela. Non, on obéit à Allah dans tout. Nous avons l'obligation de l'obéir dans l'ensemble de ses ordres. Que ce soit une chose qui est en conformité avec tes passions ou non. Que ce soit une chose que tu aimes ou non, que ce soit une chose qui est aimée par les gens ou qu'ils détestent, tu te dois d'obéir à Allah. Et tu ne dois jamais faire prévaloir l'obéissance d'une créature sur celle d'Allah. On nous dit, il n'y a pas d'obéissance en la créature si cela entraîne une désobéissance au Créateur. Deuxièmement, et obéissez au messager. L'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une obéissance distincte. C'est-à-dire qu'on ne lui, on ne lui met pas de conditions. Tu ne dois pas dire j'obéis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à partir du moment où cet ordre je le trouve dans le Coran. Et dans le cas contraire, je peux me permettre de ne pas lui obéir. Ceci est une compréhension erronée et une grande faute. Et ceux qui aspirent et prétendent cela sont appelés de nos jours Al-Qur'aniyoun, les adeptes du Coran. Et par Allah, je jure par Allah qu'ils n'ont aucune raison de s'appeler ainsi et ça n'est pas authentique. C'est-à-dire cette appellation ne leur revient aucunement de droit. Car Al-Qur'ani, celui qui est un adepte du Coran, est celui qui répond à l'appel qu'on trouve dans le Coran. Et parmi l'appel du Coran, le fait de répondre à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la religion, c'est également une révélation. Allah nous dit dans le Coran selon la traduction, et il ne parle pas selon ses passions, ça n'est qu'une révélation inspirée. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des ordres, ceci a une portée plus vaste, ou plutôt, ceci n'est pas forcément littéralement dans le Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne ce qu'il y a dans le Coran, mais il y a également des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne trouve pas textuellement dans le Coran. Mais il nous faut quand même tout prendre car ça fait partie de la révélation et nous avons reçu l'ordre d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti qu'à la fin des temps ou plus tard viendront des gens. Et sachez que vers la fin des temps il y aura de nombreux troubles. Parmi ces troubles, une personne, des gens qui seront appuyés ou accoudés sur leur canapé. C'est-à-dire qu'ils seront dans les bienfaits. L'un d'entre eux dira, ce que nous trouvons dans le Coran, nous en tenons compte. Et ce qu'on ne trouve pas dans le Coran, on n'en tient pas compte. Donc le cheikh a réfuté cela. Et parmi les versets contenant un grand test, une épreuve pour les serviteurs, la parole d'Allah, selon la traduction, dit « Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. » Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc si tu aimes Allah et tu veux son amour, tu te dois de suivre qui ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Fa qawlullahi tabaraka wa ta'ala ati'u Allah thumma qala wa ati'u ar-rasul thumma qala ba'da dhalik wa ulil amri minkum. Wa hadha dalilun min al-kitab على وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين إلا أن هذه الطاعة وكما تدل عليه الآية طاعتهم ليست استقلالية بمعنى أوامرهم ليست وحيا ليست كأوامر الله أو أوامر رسوله عليه الصلاة والسلام نطيعهم بالمعروف نطيعهم ما لم يأمروا بمعصية فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة إذا يأمرك ولي الأمر بعدم الصلاة لا تطعه بحلق اللحية لا تطعه بترك الحجاب لا تطعه لأنه أمر بمعصية لأنه أمر بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقلنا أن الحكمة من التثنية بالوصية بالسمع والطاعة لأن في السمع والطاعة لولاة الأمر حفاظ على جماعة المسلمين حفاظ على جماعة المسلمين واجتماعهم لأن الخروج عليهم لا يأتي بخير وما أتى بخير البتة منذ أن ظهر الخوارج منذ أن ظهر الخوارج والخروج لم يأتي بخير والنصوص الكثيرة الناهية الزاجرة عنه حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأمر بالسمع والطاعة لهم قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. بهذا الوصف في هذه الشروط يكفر أولا وأن يكون كفره بواحا يعني ظاهر للناس جميعا ظاهر لا يخفى على أحد ولا يختلف فيه اثنان لكم فيه من الله برهان لكم أدلة من الكتاب والسنة أن هذا كفر وأن صاحبه كافر لأن إجماع المسلمين إجماع علماء أهل السنة ومن الأصول المقررة عندهم أن مثل هذه المسائل أئمتنا من المتقدمين وحتى من المتأخرين أدرجوها ضمن مسائل أصول الاعتقاد لأنها متعلقة بأصل من أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة خالفوا فيه أهل البدع والأهواء خالفوا الخوارج في هذه المسألة الخوارج يرون الخروج على الإمام الفاسق بل يوجبونه ومن أسلافهم من خرج على الخليفة الراشد وإن كان الصحيح أن هؤلاء يوصفون بالثوار ولا يوصفون بالخوارج الذين خرجوا على ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وسفكوا دمه ومات شهيدا بشهادة الوحي النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه في يوم كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان عند أحد فتحرك هذا الجبل تحرك هذا الجمل تحرك ما أدري سموه تخومبلمون دو تير ما أدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان تتحرك وفوقك هؤلاء الأربعة نبي بل أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام وصديق بشهادة القرآن له وشهيدان عمر رضي الله تعالى عنه الذي قتله ذلك المجوس أبو لؤلؤ وعثمان بن عفان الذي قتلته تلك العصابة المجرمة الذين ثاروا عليه وسفكوا دمه فأهل السنة والجماعة جعلوا هذا وأدرجوه ضمن أصول الاعتقاد إجماع العلماء على عدم جواز الخروج على الإمام الفاسق ليس معنى هذا رضا بفسقه كلا ولكن هذه المسائل مبنية على أصول الشريعة هذه جاءت بأصلين عظيمين جاءت لدرء المفاسد كلها وتقليلها والتقليل من شرها وجلب المصالح جميعها وتكميلها الشريعة جاءت بهذا فقد تترك مفسدة إذا كانت ستؤدي إلى ما هو أعظم منها تترك وجوبا لا استحبابا وجود الإمام الفاسق هذه مفسدة، ولكن الخروج عليه لإزاحته تترتب عليه مفسدة أشد وأعظم. فالشرع حرم علينا هذا النوع من الفساد والإفساد الذي يؤدي إلى الفتنة العظيمة والبلايا الكبيرة التي تعصف بكيان هذه الأمة.
يا شيخ حفظه الله تعالى نجي أقرب وسلاب دبي الله دبي ومساجي صلى الله عليه وسلم ونجي وأولي الأمر منكم et à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Dans cela, il y a une preuve quant à l'obligation de l'obéissance, quant à l'obligation d'obéir au gouverneur musulman. Mais cette obéissance n'est pas une obéissance absolue. Elle est plutôt rattachée à ce qui nous a été révélé dans le Coran et la Sunna, c'est-à-dire qu'on ne doit pas obéir au gouverneur s'il nous ordonne une chose qui vient à l'encontre du Coran et la Sunna, s'il nous ordonne de désobéir à Allah comme le délaissement de la prière ou se raser la barbe ou délaisser le hijab, dans ce cas-là nous n'obéissons pas car on nous ordonne une désobéissance. Il n'y a point d'obéissance à la créature lorsque cela entraîne une désobéissance au créateur. La hikma, la sagesse d'avoir cité en seconde position, après avoir cité la piété et la crainte d'Allah, la sagesse d'avoir cité l'obéissance au gouverneur, c'est qu'en obéissant au gouverneur, il y a l'union du groupe des musulmans. Quant au fait de sortir et de se révolter contre eux, à l'image des Khawarij, ceci n'a jamais apporté de bien. Depuis l'époque des Khawarij, ceci n'a jamais apporté de bien. Et nombreux sont les textes qui nous éduquent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit de ne pas sortir contre les gouverneurs, sauf, lui il cite des conditions, si ce n'est après avoir vu de sa part une mécréance évidente. Une mécréance évidente dont vous avez la preuve de la part d'Allah. Donc voici les conditions. Il doit avoir commis une action qui le fait sortir de l'islam, une mécréance claire, évidente aux yeux de tout le monde. Deux personnes ne divergent pas sur ce point. Personne ne diverge à ce point-là, c'est évident. Car la preuve vient du Coran, de la Sunna, de la révélation. Il y a le consensus des savants de la Sunna, il y a le consensus des musulmans sur cette question religieuse. Et c'est pour cela que les savants ont fait entrer dans leurs livres, traitant des bases de la croyance, ils ont fait entrer cette question religieuse. Car les Khawarij ont contredit les adeptes de la Sunna dans cette question. Ahl Sunna, les gens de la Sunna et du consensus, ont contredit la voix des Khawarij dans cette question religieuse, le fait de sortir contre et de se révolter contre les dirigeants ayant de grands péchés. Que s'est-il passé à l'époque de Othman ibn Affan radiallahu anhu, l'homme de lumière, lorsque ces gens-là sont sortis contre lui? Le Shir nous dit, et en réalité ces gens ne sont pas appelés Khawarij, mais ils sont appelés Thuwa, des gens qui se sont révoltés et ont causé un grand trouble. Ils sont sortis contre Othman radiallahu anhu jusqu'à l'avoir assassiné. Il est donc mort martyr, comme en a témoigné la révélation, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il était sur la montagne de Uhud, en compagnie de Abu Bakr, Omar, Othman, et Othman, na'am, la montagne a tremblé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tranquillise-toi au Uhud, calme-toi au Uhud, tu n'as sur toi qu'un prophète, un très véridique et de martyr. Le prophète, c'est lui le meilleur des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Le très véridique Abu Bakr et les deux martyrs, Omar, qui a été assassiné par Abu Lu'lua al-Majusi, le Zoroastrien, et Uthman, radiallahu anhu, qui a été assassiné par ce groupe. Donc les gens de la Sunna ont mis dans leur livre, traitant des bases de la croyance, l'interdiction de se révolter, de sortir contre le gouverneur musulman,
qui est sorti de la droiture qui a des grands péchés. Non pas car ils acceptent et agréent ces péchés, mais car ils respectent et agissent en conformité avec des grandes bases dans notre législation, comme cette grande règle qui dit que de repousser les nuisances et de les diminuer, ceci passe avant le fait de ramener le bien, les choses profitables et de les compléter. Donc on délaisse un mal, le fait de se révolter, de sortir contre le gouverneur injuste, pour se prémunir d'un mal qui est encore pire, c'est le grand désordre duquel découlera cette révolte. Et ceci est une obligation, nous n'avons pas le droit, c'est proscrit, interdit, de nous révolter contre le gouverneur musulman qui commet des grands péchés.
نترك وقت يعني لم يبقى للمغرب وقت كثير لإخوة يتوضؤون تهيئون لصلاة المغرب ولنا لنستريح للحظات نواصل بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى
الشيخ حفظه الله تعالى نديكم ومحكين بوز عفان nous reposer et ceux qui veulent faire leurs ablutions puissent les faire.